Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Gaudete in Domino Semper. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est la raison, vous le savez, ce dimanche de Gaudete, il n'y a que deux fois par an que ça arrive, que le prêtre s'habille de rose. C'est pas difficile à comprendre le rose, c'est le violet dans lequel on a déjà plongé une touche de blanc pour que resplendisse un peu plus la joie qui vient, qui est encore un peu cachée, mais la joie qui vient, qui est le Seigneur, tout simplement, qui est notre joie. Alors, pour manifester la fin de cette attente, dans ce dimanche de Gaudete, dimanche de la joie, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir pour deux raisons, parce que le Christ vient, qu'il est notre joie. Voyons dans l'évangile qui nous est donné deux choses. D'abord, les questions que l'on peut poser au Seigneur, car nous aussi nous avons des questions, et Jean le Baptiste envoie ses disciples poser des questions au Seigneur. Et puis dans un deuxième temps, voyons cette figure de Jean le Baptiste, ce plus grand des prophètes. D'abord, la question que l'on pose au Seigneur, vous l'avez remarqué, Jean le Baptiste envoie ses disciples, et puis pour demander au Seigneur, mais es-tu celui qui doit venir ? Alors, ne croyez pas que Jean le Baptiste en doutait. Il n'est pas possible que Jean le Baptiste doute, lui qui a désigné le Christ comme étant l'agneau de Dieu, qui va sauver son peuple, lui qui a dit de lui qu'il n'était pas digne de défaire ses sandales, il n'a pas de doute. Il se pose une question et il se la pose pour que soit manifestée la vérité, pour que le Christ puisse manifester qui il est, l'envoyé de Dieu, Dieu lui-même, qu'il est le Christ, loin. Il se la pose afin que soit manifestée la vérité et ensuite que ses disciples puissent entrer dans cette vérité. C'est pourquoi il les envoie poser la question pour qu'ils aient eux-mêmes la réponse et qu'ils reviennent avec cette réponse et qu'ils soient alors des apôtres de la bonne nouvelle. Voilà comment vous venez à la messe, vous venez ici pour entendre, non pas que vous ayez des doutes sur votre foi, parce que si vous aviez des doutes profonds, il est probable que vous ne soyez pas venu, mais vous voulez entendre sans cesse la proclamation du Christ qui vient, alors vous venez pour poser la question « Es-tu celui qui vient ?» Oui, nous dit le Christ dans l'Eucharistie, parce qu'il va venir une fois de plus, comme il est venu dans la chair, il vient sous le voile de l'hostie pour se rendre présent à nous. Il est celui qui vient, qui va redresser nos vies. Soyez-en certains, parfois on peut se dire « Que de péchés je commets alors que je communie tous les dimanches ?» Pensez que de péchés vous commettriez si vous ne communiez pas tous les dimanches, si vous abandonniez la pratique de Dieu, le rappel perpétuel de sa loi et le divin appel qui nous fait venir vers lui. Oui, nous avons besoin d'être fortifiés. La première lecture nous l'a dit Isaïe, qui en est un spécialiste, « Fortifiez-vous, car il vient ». Oui, c'est notre joie de savoir que le Christ vient, cette joie qui n'est pas une joie factice, une joie, comment dirais-je, superficielle, qui viendrait simplement d'une bonne histoire ou d'un bon verre de vin. Notre joie vient, elle est profonde, de savoir que nous sommes sauvés parce que le Christ vient. Notre joie est inarrêtable, notre joie est spirituelle, notre joie, c'est notre vie. Soyez-en certains, partout où vous verrez la joie et la paix s'installer dans vos cœurs, là se trouve la source du Seigneur. Alors bien sûr, il nous arrive d'être ballottés, il nous arrive de n'être pas en paix, il nous arrive de n'être pas joyeux devant les nouvelles qui nous tombent dessus ou qui tombent sur notre pays ou l'Église. Mais vous devez rester ferme dans la foi, vous devez être endurant, comme le dit Isaïe. Votre joie est inébranlable parce que c'est le Christ et qu'il vient. Son dessein éternel de salut se réalise, quoi qu'il arrive, quoi que soient nos péchés, quoi que soit le péché de nos ennemis, Dieu va nous apporter sa paix, il va se venger. La vengeance de Dieu, pensez-y, c'est le bien qu'il va nous donner. Évidemment, c'est déroutant pour nous de penser que Dieu va se venger de bien, parce que la vengeance de Dieu, c'est sa présence. C'est sa présence dans le cœur du plus impie. C'est sa présence dans le cœur du plus pécheur. Rien ne peut arrêter la présence de Dieu si tant est que nous ouvrions la porte. Je vous raconte une anecdote qui m'était arrivée. Un saint prêtre, Dieu et son âme, mais je suis très intimement persuadé qu'il est saint, avait écrit un livre qui reçut une critique très sévère d'un de ses confrères. Ça arrive aussi entre prêtres d'être très sévère entre nous. Et une critique très injustifiée, même méchante. Alors, comme je ne suis pas la moitié d'un guerrier, évidemment, je suis allé voir ce prêtre que j'aimais beaucoup en lui disant « On va faire un procès et puis on va se battre !» Non, non, me dit ce prêtre, j'ai une autre solution. Bon, c'était un jésuite, alors il avait trouvé une solution moins directe. Il a dit « On va le traduire en anglais. Comme je connais bien l'évêque de Washington, il va me donner l'imprimatur. Après, je vais le retraduire en français. Et puis, comme ça, on va y aller comme ça. » Voilà. Mais c'est pas ça la vraie histoire, c'est la vengeance. Un jour, je vois ce prêtre et il me dit « Thierry, Thierry ». À l'époque, je le connaissais de mon ancien métier, pour ça que je voulais aller le voir. Il me dit « Je tiens ma vengeance contre le père machin, qui a été si méchant !» Ah, alors, moi j'étais content. Il y allait avoir du sang et des larmes. Eh bien, le père machin a écrit un livre. Alors j'ai fait une critique, une recension dans l'Homme Nouveau. Je cours voir la critique. Que du bien, que des bonnes choses. Un livre extraordinaire, magnifique, remarquable, etc. Mais je lui dis, mon père, où est la vengeance ? Thierry, tu n'as pas compris. En lisant tout le bien que je dis de lui, le père machin, je ne dis pas son nom par charité, va se morfondre du mal qu'il m'a fait et il va se convertir. La vengeance de Dieu, mes amis, c'est ça. Et cette vengeance, elle vient. Elle vient jusqu'à nous. Voilà notre questionnement repu de la présence de Dieu. Alors, je dis maintenant un mot de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, le précurseur dont le Seigneur fait l'éloge. Jean le Baptiste, c'est le précurseur du Christ, vous le savez. Le dernier des prophètes. Tous les prophètes ont espéré voir le Christ. Tous les prophètes l'ont annoncé. Un seul a eu la grâce de le reconnaître et de le désigner. Le plus grand des prophètes, il l'est pour ça, et nous devons l'honorer beaucoup. Nous l'oublions parfois, chez les orthodoxes, il y a une dévotion très grande, plus grande encore que chez nous peut-être, de Jean le Baptiste. Toute représentation de la croix se fait avec le Baptiste qui est là, parce qu'il a annoncé le Christ. Il est précurseur dans sa personne, pas seulement parce qu'il l'a dit, mais parce qu'il l'a fait. Et c'est pour ça que c'est important pour nous. Il l'a fait, c'est-à-dire Jean le Baptiste est fils de grand prêtre par son père et par sa mère. C'est un lévite. Son père était dans le temple, la caste la plus haute des prêtres, celle des grands prêtres qui avaient le droit de pénétrer dans le Saint des Saints. Jean Baptiste aurait donc dû transmettre charnellement ce sacerdoce à ses enfants, à ses fils. Il aurait donc dû œuvrer dans le temple. Voilà qu'il a inauguré dans sa personne un nouveau sacerdoce, une consécration totale, pas seulement un service de 3 mois par an, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Il a inauguré un service total de sa personne, une oblation d'où nous tirons, avec la vie du Christ, le célibat apostolique des prêtres. Voilà que Jean le Baptiste a introduit dans l'Église ce célibat dont nous avons vécu, il nous a fallu 3 siècles pour nous fixer définitivement sur cette décision, parce qu'elle était difficile à prendre. C'est le trésor de l'Église que le Baptiste a inauguré dans sa personne en n'étant pas dans le temple, en n'offrant pas des sacrifices dans ce temple qui finissait, mais en inaugurant dans le désert et dans sa personne un nouveau sacerdoce. Voilà que nous avons à nous battre. Vous avez entendu peut-être un mot difficile. Le royaume de Dieu qui vient souffre violence. Et c'est normal. J'ai lu dans les nouvelles, il y a toujours des nouvelles affreuses. Hein. Il suffit d'ouvrir Internet, il suffit d'ouvrir son journal. Les nouvelles affreuses ne manquent pas. Peut-être celle-ci n'est pas ignoble, mais si elle est ignoble, elle n'est pas la plus grave. une représentation de la crèche, une représentation vivante avec des enfants, interrompue par des manifestants qui crient leur haine que l'on puisse célébrer le Christ qui vient. C'est magnifique de penser que la parole du Christ est si actuelle qu'elle se réalise encore aujourd'hui. Oui, la venue du royaume de Dieu souffre violence, et quand on se le demande finalement, qu'est-ce qui peut bien provoquer cette haine indéfinie, cette haine intarissable de ceux qui ne veulent pas que nous fêtions Noël, qui ne veulent pas que nous le disions? C'est simplement que l'amour est toujours difficile à accepter pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Alors nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons nous disposer à recevoir le Christ qui vient, à inviter le monde entier à recevoir ce bien qui va faire la joie pour maintenant, mais qui est surtout notre joie éternelle. Réjouissons-nous que la parole du Christ est toujours aussi efficace. Si la prédication des violences est toujours vraie, la prédication de sa venue ne l'est pas moins. Le Christ vient, et c'est maintenant que nous pouvons nous réjouir et exulter de joie. Ainsi soit-il.